Bonjour Ali, bonjour à tous. C'est l'événement du jour, le Tour de France, la plus grande course du monde débute aujourd'hui. Départ donné à Nice dans une heure, sous la menace de l'épidémie de coronavirus. Ce matin, les règles sanitaires ont été renforcées, décision de la cellule de crise interministérielle. Deux cas dans une équipe et c'est l'exclusion. Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France.
Ce sont deux cas positifs sur 30 membres d'une équipe et non pas deux cas sur 8 coureurs, ce qui effectivement resserre le dispositif, mais on peut parfaitement le comprendre dans les situations actuelles et les équipes cyclistes l'ont parfaitement entendu.
Nous irons à Nice dans un instant avec notre envoyé spécial Fanny Lechevestrier et notre invité Christian Estrosi, le maire de Nice. Les anti-coronavirus manifestent aujourd'hui en Allemagne, déjà beaucoup de monde à Berlin pour dénoncer le port du masque obligatoire et les mesures de restriction. Le navire humanitaire Louise Michel appelle à l'aide. Le navire affrété par Banksy a effectué un sauvetage massif de migrants en Méditerranée. Dans ce journal également, une BD signée Patrice Lecomte, le réalisateur des Bronzés et de Ridicule. À 13h20, Secret d'Info. Au programme aujourd'hui, Jacques Monin.
Eh bien, une enquête sur les survivalistes qui se préparent à vivre dans un monde qui se serait effondré. On les évalue à 300 000 en France et la crise de la Covid-19 les a renforcés.
Secret d'Info, Jacques Monin, à 13h20.
France Inter.
Deux mois de retard, mais on y est. Étape 1 aujourd'hui du Tour de France, du Tour 2020, 156 km autour de Nice. On y reviendra sur cet aspect purement sportif de la compétition. Une compétition sous la menace de cette sale épidémie de coronavirus et qui, il faut bien le dire, complique le travail des organisateurs, des coureurs et le plaisir des spectateurs. En direct de Nice, à 1h du départ, on rejoint notre envoyé spécial, Fanny Lechevestrier. Bonjour Fanny.
Bonjour Frédéric.
Alors Fanny, on a appris ce matin, en même temps que tout le monde et en même temps que les coureurs, que le protocole sanitaire avait encore changé et qu'il avait été renforcé. Désormais, s'il y a deux cas de Covid dans l'équipe, c'est fini pour l'équipe en question.
Oui, effectivement, les autorités sanitaires et le conseil interministériel, vous l'avez dit, ont refusé d'assouplir le protocole qui avait été mis en place par les équipes, protocole mis en place par l'Union cycliste internationale. Concrètement, ces dernières équipes seront exclues de la course dès que deux de ses membres, encadrement, mécano, chauffeur compris, seront positifs, ce qui complique bien sûr la tâche. Et c'est dans un contexte un peu pesant, on va le dire, que s'apprête à partir le 7e Tour de France, avec des règles, il faut bien le dire, qui bougent de jour en jour en fonction de l'évolution sanitaire dans le pays. Et cette déclaration ce midi qui n'a rien fait pour nous rassurer, c'est celle de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. La question, le Tour peut-il être arrêté? Sa réponse.
On ne doit rien s'interdire, et donc tout est toujours possible. Et je crois que les esprits doivent s'habituer à cela. Donc ce genre de choses peut arriver, mais bien sûr, j'espère que ça ne va pas se passer. Et je pense que ça ne va pas se passer parce que il y a vraiment un travail extraordinaire qui a été fait par les organisateurs du Tour.
Voilà dans quel contexte Frédéric va s'élancer donc la grande boucle dans un petit peu moins d'une heure désormais.
Oui Fanny, le Tour peut s'arrêter, mais on espère que ça ne va pas se passer. Donc le Tour démarre dans une heure, avec le départ donc de cette première étape, dans une ambiance j'imagine bien étrange, puisqu'il n'y aura que 50 chanceux pour assister au départ.
Oui, 50 bénévoles qui ont participé depuis des mois à la préparation. Bien malgré tout de cette fête, c'est vrai que ça fait bizarre de voir cette zone de départ totalement vide. Après, tout le monde, les premiers, les coureurs, essaient de faire abstraction de ce contexte. On voit quand même des spectateurs essayer d'aller chercher une place pour voir passer les coureurs un petit peu plus loin. Ils en ont le droit, on le rappelle, bien sûr, s'ils mettent un masque. Des spectateurs donc voilà qui s'éloignent de cette zone de départ. Ça va peut-être un peu décaler la fête, mais en tout cas, il y a quand même aussi, il faut le souligner, du soulagement que ce Tour s'élance enfin, car il y a eu beaucoup d'inquiétudes ces derniers jours avec, pourquoi pas, des risques d'annulation. On l'a vu avec Jean-Michel Blanquer encore ce midi, tout reste possible. Mais pour l'instant, on a hâte vraiment d'être dans la course. Il y a 156 km au programme aujourd'hui. Et pourquoi pas, pour nous donner un petit peu de baume au cœur, une victoire française au sprint. Allez, on met une petite pièce, Frédéric, sur Brian Coquart aujourd'hui.
On va vous écouter tout au long de l'après-midi et dans le journal de ce soir, Fanny Lechevestrier en direct de Nice. Je me tourne vers notre invité qui est à vos côtés dans nos studios à Nice, Christian Estrosi. Bonjour monsieur Estrosi.
Bonjour.
Maire de Nice et président de la métropole Nice-Côte d'Azur. Christian Estrosi, le Tour de France va bien partir de chez vous dans moins d'une heure. Pour vous, c'est un soulagement? Vous vous dites ouf enfin ou il y a beaucoup d'inquiétudes?
Il y avait naturellement des inquiétudes, mais en même temps, voilà, c'était un moment espéré que la plus grande épreuve sportive au calendrier de la planète cette année, puisque les Jeux Olympiques avaient été annulés, puisse être maintenue avec ce report de 2 mois. Nous y sommes préparés avec ASO, avec les services de l'État et ici, comme dans chacune des collectivités qui seront traversées, mais sans doute encore plus ici, puisque nous avons le tour avec quasiment 3 étapes qui déjà vont installer les champions et les équipes à la place qui doit être la leur. Eh bien, malgré tout, c'est une belle fête et on est en train de lever les doutes, les incertitudes. Le spectacle offert par la course féminine qui a eu lieu ce matin a déjà été absolument magnifique. Et vous verrez dès cet après-midi les plus beaux paysages de la métropole de Nice entre la Méditerranée et les premières cimes des Alpes. Et non, ce ne sont pas l'absence de quelques public au départ ou à l'arrivée qui compte, c'est 3,5 milliards de téléspectateurs dans le monde grâce à la retransmission par France Télévisions, grâce aussi aux médias tels que vous et le service public que vous représentez en France qui permettent tout cela. Donc, dans ce stade où nous offrons 500 km de route en 3 jours, on n'est pas dans un stade de 30 000 ou de 40 000 spectateurs. Il y aura du monde, que ce soit sur les routes, que ce soit devant les écrans de télévision ou forcément ceux qui ne peuvent pas être là se précipiteront pour regarder la route et la course devant leur télévision.
Christian Estrosi, vous vous êtes battu pour que le départ du Tour de France puisse être donné à Nice. La ville a investi combien dans l'accueil de la première étape et des 2 suivantes, vous nous dites ?
C'est un budget d'environ 3 millions d'euros, ce que toutes les grandes villes de départ investissent. Il y a quelques années, il était parti d'Ajaccio, l'année dernière de Bruxelles, de Monaco en 2013 avant de traverser Nice. Et en même temps, pendant 3 jours, il y a près de 13 000 nuitées rien qu'avec l'organisation. Et puis parce que je pense que le cru 2020 sera assez exceptionnel, on voit bien ces champions qui ont envie d'en découdre de manière très durable. Ce sont avec les plus beaux paysages que nous offrons, sans doute des retombées très très durables. Nous savons que les grandes politiques événementielles sur une terre comme la nôtre comptent beaucoup en termes d'investissement pour avoir des retombées durables sur l'avenir.
Christian Estrosi, les retombées sont limitées ou contenues pour votre ville de Nice, même s'il n'y a pas le public, même s'il n'y a pas de spectateurs ? Je pense au commerce ou au restaurant.
Vous imaginez les gens qui, tout autour de la planète, regardent la course. Il y a du monde. Il y a 3,5 milliards de personnes. C'est comme si vous me disiez, est-ce qu'il faut continuer le championnat de Ligue 1 parce que il y a des matchs à huis clos. Donc, on arrête le foot, on arrête le rugby, on arrête le vélo. Eh bien, je pense qu'avec le gouvernement français, qu'avec l'ensemble des 35 villes, étapes de départ et d'arrivée jusqu'à Paris, parce que vous pouvez poser la même question à Madame Hidalgo, nous ayons tous décidé d'être solidaires de ce qui appartient au patrimoine de notre pays et de ces images de villes, de villages, de paysages, de clochers qui vont être retransmis sur la planète tout entière. C'est aussi tellement attendu, ça appartient au patrimoine et à l'identité de la France, et que nous soyons, comme ici à Nice, quelques-uns à contribuer à relever ce défi et à nourrir dans ces périodes de pessimisme aussi cette note d'optimisme et d'espérance pour l'avenir. C'est aussi un devoir public à partir du moment où nous sommes rigoureux, responsables, intransigeants sur les règles qui protégeront tout un chacun. Et vous savez qu'ici à Nice, pour avoir suivi la gestion du confinement et du déconfinement, nous n'avons pas été les derniers à imposer des règles extrêmement strictes.
Merci Christian Estrosi, maire de Nice, d'avoir été l'invité du journal de 13h de France Inter. Alors dans ce contexte, on reste dans le Tour de France en raison de l'épidémie. On va s'intéresser à une équipe en particulier. Le Tour 2020 va peut-être permettre à Israël de donner une autre image du pays. Parmi les équipes engagées, donc, figure Startup Nation, la première équipe israélienne à disputer le Tour de France. La formation n'a aucune chance de remporter la victoire finale, qui sait. Mais c'est un outil de communication pour l'État hébreu. Jérusalem, Frédéric Mettezo.
Le maillot de l'équipe est aux couleurs du drapeau israélien, blanc et bleu. et son nom claque comme un slogan, Startup Nation. Pour son propriétaire, Sylvain Adams, il ne s'agit pas seulement de sport.
On the one hand, we are promoting cycling in Israel.
D'un côté, nous devons promouvoir le cyclisme en Israël. De l'autre, nous devons promouvoir notre pays pour montrer le vrai visage d'Israël qui est tellement mal compris à cause d'une couverture médiatique à sens unique.
Pour Asaf Ackerman, journaliste à la chaîne Sport 5, l'événement est considérable.
Tout le monde va voir l'étoile de David, tout le monde va voir le drapeau d'Israël pour la première fois. On veut tous renvoyer une image parfaite dans le monde.
Mais pour Eyal Zisser de l'université de Tel Aviv, il y aura toujours des limites.
Vous gagnez une compétition et juste après, le Premier ministre parle d'annexion. La réalité est la réalité. Il y a un conflit. L'extrême droite a de grands rêves. L'image renvoyée ne change pas la réalité du paysage.
Plusieurs mouvements pro-palestiniens dénoncent une propagande honteuse. Ils appellent à manifester sur les routes du Tour. Jérusalem, Frédéric Mettezo, France Inter.
L'épidémie de coronavirus peut être des manifestations sur le Tour, qui doit normalement arriver à Paris le 20 septembre prochain. En France, le port du masque se généralise et s'étend dans les grandes villes. Bordeaux, Strasbourg rejoindront bientôt Paris et Marseille. Et dans le Bas-Rhin, justement, le port du masque devient obligatoire dans les communes de plus de 10 000 habitants à partir d'aujourd'hui. Et en Allemagne, les anti-coronavirus, opposés au port du masque et aux mesures de restriction, se retrouvent aujourd'hui à Berlin, porte de Brandebourg. Les organisateurs de la manifestation l'appellent la fête de la liberté et de la paix, une manif organisée dans un contexte de reprise de l'épidémie. En direct de Berlin, David Philippot. Bonjour David.
Bonjour à tous.
La manifestation a finalement été autorisée et il y a du monde. La précédente avait rassemblé près de 20 000 personnes ou plus de 20 000 personnes, David Philippot.
Et sans doute encore, oui, beaucoup plus de monde aujourd'hui. Au moins déjà 20 000 personnes à la mi-journée qui se pressent autour de la porte de Brandebourg où je me trouve. C'est une foule très hétéroclite. Il y a là des familles hippies anti-vaccins à côté de skinhead. Et donc on voit le drapeau arc-en-ciel flotté à côté de celui noir et blanc et rouge du Reich allemand. Dans la foule, donc, beaucoup de conspirationnistes et des militants d'extrême droite radicaux qui veulent prendre Berlin d'assaut. C'est le mot de clé sur les réseaux sociaux. Alors, ces manifestants se combattent d'habitude, mais là, ils sont réunis à Berlin, des corona-rebelles, des groupes qui doutent de l'existence du virus et dénoncent les mesures sanitaires prises par le gouvernement. Les journalistes et les policiers sont la cible de leur colère. Un manifestant en t-shirt blanc encadré par 30 CRS a été évacué sous les cris de la foule qui crie « Honte à vous, les policiers, ils sont 3000 à être mobilisés autour de la place ». Et là, des barrières viennent de céder sous la pression des manifestants en colère. Aucun ne porte de masque et personne ne respecte les distances. Les rappels à l'ordre de la police sont conspués, comme vous l'entendez derrière moi, Frédéric. Et la police qui vient à l'instant, c'est un urgent actuellement de dissoudre cette manifestation qui ne respecte donc pas les conditions fixées par la préfecture de police de Berlin.
David Philippot en direct de Berlin, merci. Le Louise Michel appelle à l'aide. Ce navire humanitaire affrété par Banksy, l'artiste star de l'art urbain, a effectué ces dernières heures un sauvetage massif de migrants en Méditerranée. Le bateau qui se trouve en ce moment entre l'île de Lampedusa et Malte réclame une assistance immédiate. Bonjour Rémi Brancato.
Bonjour.
Vous avez pu joindre Rémi ce matin un membre de l'équipe.
Oui, et après seulement 15 jours en mer, le navire a donc dû effectuer un deuxième sauvetage hier, un canot qui menaçait de couler avec 130 personnes. Résultat, 198 naufragés sont à bord actuellement, 165 sur le bateau et 33 autres sur un radeau de survie accroché au Louise Michel, faute de place. C'est ce que nous explique Claire, cette membre de l'équipe restée à terre.
Le bateau ne peut pas naviguer, il ne peut pas se déplacer tout seul parce qu'il y a ce radeau de survie, c'est pas fait pour être tracté non plus en mer. Le bateau, il a atteint sa limite. Il faut bien comprendre que c'est pas une erreur d'avoir pris ces gens à bord. Si ces gens n'étaient pas à bord du Louise Michel en ce moment, ils seraient morts.
Et pour les survivants, il y a donc urgence sur ce petit navire de 31 mètres.
Ils sont effectivement dehors, exposés aux éléments. C'est des gens qui ont déjà souffert de déshydratation. Ils présentent tous des brûlures dues au mélange d'eau de mer et d'essence. Ils sont tous aussi extrêmement traumatisés. Des gens extrêmement fragiles. Nous, à bord, on a de l'eau, on a des rations de survie, hein, mais on n'est pas un bateau qui est fait pour garder les gens des semaines et des semaines avec le nombre de personnes qui est à bord en ce moment. Ce n'est pas une situation qui peut s'éterniser, c'est impensable.
Alors, les 10 membres d'équipage ont lancé plusieurs appels au sauvetage.
Concrètement, on a alerté les pays européens les plus proches, Malte et l'Italie. On n'a aucune réponse.
L'équipe du Louise Michel dénonce l'indifférence des pays européens. Selon elle, n'importe lequel d'entre eux peut aujourd'hui coordonner une mission de sauvetage.
Rémi Brancato, merci. Ce sera l'un des temps forts de l'agenda gouvernemental la semaine prochaine. Le plan de relance économique de 100 milliards d'euros présenté jeudi. Emmanuel Macron a expliqué hier qu'il doit préparer la France de 2030. Ce matin sur France Inter, Bruno Le Maire, qui était l'invité d'Alexandra Ben Saïd dans On n'arrête pas l'écho, a expliqué que personne ne sera oublié, mais il faudra être solidaire. On écoute Bruno Le Maire.
On va faire le maximum pour sauver tout le monde. Je ne vous dis pas qu'on aura des résultats qui nous permettront d'éviter toutes les faillites. Est-ce qu'il y aura plus de faillites dans les mois qui viennent qu'il y en a d'ordinaire? Oui. Est-ce que nous ferons tout, et même plus que tout, pour éviter ces faillites et trouver des solutions? La réponse est oui. Nous ne nous en sortirons que si nous sommes tous solidaires. Entre le secteur financier, les banques, les TPE, les PME, les pouvoirs publics, les régions, les collectivités locales, tous solidaires pour sortir de la crise et en sortir plus fort. Personne ne sera oublié dans la relance. Aucune TPE, aucune PME, aucun salarié, aucune administration ne sera oubliée. Aucune collectivité locale, contrairement à ce que j'ai entendu dire, il y a déjà de l'argent qui a été mis à disposition des collectivités locales, que ce soit les régions ou les mairies, pour compenser le manque à gagner. Et je redonne ce mot d'ordre, la solidarité doit faire partie aujourd'hui de l'état d'esprit collectif.
Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, avec Alexandra Ben Saïd. Chadwick Boseman, la star de Black Panther des studios Marvel, est mort cette nuit à l'âge de 43 ans, terrassé par un cancer. Chadwick Boseman incarnait le roi T'Challa dans Black Panther. Patrice Leconte, de retour à la case BD, le réalisateur des Bronzés ou de Ridicule, scénarise une bande dessinée sur l'histoire de deux femmes pendant l'occupation, deux passantes dans la nuit, un album à six mains avec Alexandre Courtelis et Jérôme Tonnerre. Patrice Leconte, qui a débuté par la BD à Pilote dans les années 70, signe une histoire d'amitié entre les deux femmes entraînées par le hasard et les circonstances dans le Paris de l'occupation. Un premier tome qui se lit d'une traite, Jacqueline Pétrose.
Arlette, blonde, vive, effrontée, sort de prison une fin d'après-midi d'hiver. En trouvant refuge au cabaret Le Paradis, elle rencontre Anna, brune, taiseuse, juive, qui vient d'être dénoncée et l'entraîne dans sa fuite. Dans la nuit, elles échappent aux Allemands, se confrontent aux collabos et découvrent que la vie continue dans les lieux interlopes. Une drôle de rencontre, une drôle d'époque. Patrice Leconte.
On voulait aborder cette époque, mais d'une manière très stylisée, voire carrément poétique, c'est-à-dire de pas encombrer le récit avec des colonnes de véhicules allemands, des bottes de cuir, toute cette imagerie un peu lourde et un peu convenue aussi. Il fallait absolument qu'il y ait des portes entrebâillées sur des choses plus joyeuses, plus insouciantes, malgré la situation.
Bal clandestin, jazz étouffé, l'errance se teinte d'espérance.
D'une manière sous-jacente, il y a cette musique joyeuse, zazou, bebop, jazz bien sûr, qui ne demande qu'à ressortir à la lumière et à la surface de la vraie vie. C'est un peu comme s'il y avait de la musique joyeuse au fond d'une marmite et que pour l'instant, il y a un gros couvercle sur la marmite. Mais si on tend l'oreille dans la marmite, il y a la musique.
Ombres et lumières, des dessins bleus, ocres et orangés de Courtelis, scénario de Tonnerre et Leconte qui nous touche avec cette naissance d'une amitié en temps effrayant. Deux passantes dans la nuit nous tient en haleine entre danger de mort et joie de vivre.
De passance dans la nuit de Patrice Leconte, Jérôme Tonnerre et Alexandre Courtelis aux éditions Grand Angle. Patrice Leconte qui publiera aussi en septembre des histoires illustrées. Faites la fête aux éditions Flammarion. Samedi 29 août, c'est encore un week-end très chargé sur les routes des retours de vacances. La journée est classée rouge sur tout le territoire, pour les retours bien sûr, vert pour les départs. Caroline Félix, en direct du PC Mobilité de Radio France. Bonjour Caroline.
Bonjour Frédéric.
Il y a un point noir ou des difficultés en Vallée du Rhône?
Oui, beaucoup de monde sur l'A7 en remontant vers le nord. Les principales perturbations, c'est en allant d'Orange à Montélimar. Hein. Comptez 1h10 au lieu de 20 minutes d'habitude. Attention particulièrement à cette voiture en difficulté sur un refuge à hauteur de Bolène dans le Vaucluse. Ensuite, entre Montélimar et Lyon, ça roule un peu mieux. C'est compliqué aussi dans le Vaucluse sur l'A9 en allant vers le nord à Roquemort. Il y a un accident avec une seule voiture impliquée. En amont, vous êtes ralenti sur 5 km. Et puis, ça coince aussi dans les Bouches-du-Rhône sur l'A8 en venant d'Italie. Juste après la sortie 29 à Aix, il y a cet accident qui provoque des bouchons sur 6 km. Enfin, ça coince à l'ouest aussi de la France sur l'A10 entre Saint-Aignan. Comptez une demi-heure de retard. retard. Et puis au sud de Bordeaux, en allant vers le nord, vous êtes nombreux à rentrer de vacances. Il y a un gros bouchon à partir de Salles, presque une heure pour faire 13 km.
Oui, ça, la rocade de Bordeaux sur la 10, c'est toujours un problème. Merci Caroline Félix. Le temps ce week-end avec cet après-midi, des nuages et des orages. Jean-Michel Golinski.
Des températures souvent sous la barre des moyennes pour l'époque de l'année, avec des maxima de 17 à 22 degrés cet après-midi, de la Manche au sud-ouest et du Grand Est à Rhône-Alpes. La Corse et la Côte d'Azur sortent du lot avec une trentaine de degrés, de Bastia à Ajaccio, 26 à 27, de Toulon à Nice. Le tout sous un ciel globalement très variable cet après-midi sur la plus grande partie du pays, avec un pêle-mêle d'éclaircies, d'averses et même de coups de tonnerre. Une ambiance donc instable, y compris sur la première étape du Tour de France. Demain, dans des températures sans changement, ce sera à peu près la même situation, avec à nouveau des averses, de l'orage dans la masse, mais quand même l'installation d'un ensoleillement plus durable sur l'arc atlantique. Et puis, près de la Méditerranée, le retour du vent va dégager le ciel.